Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, John Lyndon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 2 mai 2016. Au sommaire ce matin,
République démocratique du Congo, l'opposition met en place l'alternance pour la République, une nouvelle plateforme en vue de la présidentielle de décembre 2016.
Une candidature commune qui va vous permettre d'avoir un programme commun de gouvernement afin qu'aux prochaines échéances, nous soyons en mesure de battre le pouvoir.
Au Tchad, tensions vives après les élections présidentielles. 5 des 6 candidats contestant la victoire du président Idriss Déby Itno étaient réunis dimanche à Moundou pour apporter leur soutien à Laoken Karoya Médard.
Après donc le résultat issu de ces élections, plaçant donc en troisième position selon donc la CENI, Laoken Karoya Médard, ses sympathisants et militants sont donc menacés.
L'eau potable, une denrée rare à Ouagadougou, les autorités annoncent le début cette semaine du rationnement.
La situation est grave, il faut qu'une solution soit prise.
Congo-Brazzaville, un nouveau gouvernement mis en place. L'équipe conduite par le Premier ministre Clément Mwamba compte 38 membres.
John Kerry est à Genève. Le secrétaire d'État américain tente de trouver des voies et moyens pouvant permettre de consolider la trêve en Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Les chefs des diplomaties françaises et allemandes sont arrivés ensemble dimanche soir au Mali pour réaffirmer le soutien de l'Union européenne à ce pays et à son armée confrontée à la menace djihadiste dans le Nord. Nous sommes venus ensemble symboliquement pour montrer la détermination de la France et de l'Allemagne à soutenir ce processus de pacification et de développement qui est en cours, a déclaré à son arrivée à l'aéroport de Bamako le ministre français. L'entrevue avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, initialement prevue au cours d'un dîner dimanche soir, a été reporté pour ce matin.
Nouveau gouvernement au Congo-Brazzaville, un mois après la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Conduit par le Premier ministre Clément Mwamba, ce gouvernement de 38 ministres annoncé dimanche est marqué par l'entrée d'une quinzaine de personnalités et le départ de 4 ministres d'État. De Brazzaville, les précisions d'Nguela Ngoussou.
Les classiques de tous les temps comme Isidore Mvouba, le général Florent Tiba ou l'oncle du président Sassou Nguesso, Aimé Emmanuel Yoka et Rodolphe Adada, tous ministres d'État, n'ont pas été reconduits. Seul le rescapé Henri Ndjombo, lui aussi ministre depuis 1997 après la victoire de la guerre civile, mais qui laisse son éternel poste de l'économie forestière à Rosalie Matondo pour aller à l'agriculture et à l'élevage. Mais le gouvernement de Clément Mwamba compte beaucoup de jeunes figures comme Destiny Doukara, moins de 40 ans, à la jeunesse et à l'instruction civique, Léon Juste Ibombo au Télécom, et dont l'association le MDZNR vient de porter plainte contre les médias français RFI, France 24 et TV5 Monde pour incitation à la violence au Congo. Elvis Jirel Salissa Oukombi, se réclamant du centre, s'occupera des relations avec le Parlement en dehors du défi du développement socio-économique qu'attendent tous les Congolais. Le gouvernement Mwamba devra vite relever le défi de la paix et de sécurité car les bombardements issus du contentieux électoral se poursuivent dans le Poula. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Des jours difficiles en vue pour les habitants de Ouagadougou, la capitale burkinabé, où les autorités ont annoncé le début cette semaine du rationnement de l'eau potable, une décision dictée par les difficultés d'approvisionnement en eau de la ville. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Daniel Dayen. Il est le secrétaire général chargé de l'éducation et de la formation de la Ligue des consommateurs de Burkina Faso.
La situation aujourd'hui, c'est que le stock d'eau, s'il faut le dire ainsi, est suffisant pour pouvoir alimenter toute la ville de Ouagadougou à cette période de chaleur. Voilà un peu la situation. Nous, les consommateurs, nous commencions déjà à demander aux consommateurs eux-mêmes de rationner leur consommation, de ne plus procéder au lavage des véhicules à jet d'eau, de ne plus arroser les fleurs à jet d'eau, etc., etc. Je crois que ce que le gouvernement a demandé, c'est exactement comme si ils étaient en train de faire une sorte de délestage. Voilà ce que nous avons dit à chaud. La situation est grave, il faut qu'une solution soit prise. L'eau, c'est la vie, l'eau est obligatoire d'accès pour tout le monde, mais ce rationnement, nous aurons préféré que ce rationnement soit fait en tenant compte des personnes indigentes, des personnes qui déjà n'avaient pas accès à l'eau et qui commençaient à l'avoir par d'autres canaux comme les bonnes fontaines. Pour nous, il faut les maintenir. Donc, notre exigence serait que les bonnes fontaines, les quartiers populaires ne soient pas touchés par ce rationnement.
Daniel Dayen, secrétaire général chargé de l'éducation et de la formation de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, joint à Ouagadougou.
La Côte d'Ivoire veut mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ces secteurs clés dans l'espoir de faire baisser les prix, a annoncé dimanche le président Alassane Ouattara. Je lance un appel à tous ceux qui souhaitent venir investir dans ces secteurs de le faire pour que nous ayons une saine compétition qui permettra de maîtriser les prix et de baisser le coût de l'électricité, a-t-il déclaré lors des célébrations de la fête du travail sous les acclamations des syndicats des travailleurs.
Au moins 16 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble vendredi soir à Nairobi, selon un nouveau bilan officiel dimanche de ce drame causé par des pluies torrentielles et la mauvaise qualité de construction de l'édifice. Au total, au moins 23 personnes ont péri à Nairobi depuis vendredi à cause des averses torrentielles, les plus violentes depuis le début de la saison des pluies. Aux 16 personnes mortes dans l'immeuble croulé s'ajoutent 7 autres victimes dans plusieurs quartiers de la ville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
5 ans après la mort d'Oussama Ben Laden dans un raid américain, le directeur de la CIA, John Brennan, a estimé dimanche qu'éliminer le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, aurait un impact important sur l'organisation djihadiste qui a éclipsé Al-Qaïda. M. Brennan était interrogé dimanche par la chaîne NBC sur la soirée historique du 1er mai, pendant laquelle le président des États-Unis, Barack Obama, avait annoncé au monde entier la mort du chef d'Al-Qaïda.
Une autre grande première dans les relations entre les États-Unis et Cuba, pour la première fois depuis un demi-siècle, un navire croisier a quitté le port de Miami en Floride dimanche à destination de la Havane, une autre manifestation du dégel des relations entre les deux pays. Les précisions, Timothée Donagmaï.
Transportant quelques 700 passagers, le paquebot Adonia de la compagnie Fathom, filiale du groupe américain Carnival, arrive ce lundi au port de la Havane, première étape de sa croisière d'une semaine sur l'île communiste. Carnival devient ainsi la première entreprise à être autorisée, à la fois par les États-Unis et par Cuba, à naviguer entre les deux pays depuis l'interdiction de ses voyages après la Révolution cubaine de 1959. Les Américains peuvent voyager à Cuba en dépit de l'embargo économique américain imposé à l'île depuis 1962 et qui reste en vigueur. En plus des liaisons maritimes, une centaine de vols réguliers doivent recommencer cette année entre les États-Unis et Cuba après 53 ans de gel. 2 millions de Cubains réfugiés aux États-Unis auront ainsi l'occasion de retourner dans leur pays natal. Pendant ce temps, à Cuba, la majorité des habitants attendent l'afflux de nouveaux touristes dans l'espoir qu'ils doperont l'économie de leur île.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé dimanche à Genève pour des discussions sur les moyens de consolider la trêve en Syrie, alors que la Russie s'efforçait de faire cesser les hostilités à Alep, cible de violents bombardements meurtriers qui ont fait 9 jours, 253 morts parmi les civils, dont 49 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les précisions de Georges Léonard Sagnon.
Après des bombardements nocturnes menés aussi bien par les forces du régime que par les rebelles, un calme précaire régnait dimanche dans la ville d'Alep, où les rues étaient désertes, selon un correspondant de l'AFP sur place. Allié indéfectible du régime de Bachar al-Assad, la Russie a fait état de pourparlers en cours pour parvenir à une suspension des combats dans la province d'Alep. À Genève, M. Kerry doit discuter avec l'émissaire de l'ONU, Stéphane de Mistura, et ses homologues saoudiens et jordaniens, d'une consolidation de la trêve, entrée en vigueur le 27 février et qui a volé en éclats avec les raids acharnés du régime sur Alep le 22 avril. La fin des violences à Alep et le retour à une cessation durable des hostilités sont la première des priorités, a souligné M. Kerry. Il a aussi demandé à la Russie de prendre des mesures pour arrêter les attaques aveugles du régime de Bachar al-Assad sur Alep.
Contre la pauvreté salariale et sociale, les manifestations traditionnelles du 1er mai se sont déroulées dimanche à travers le monde avec des incidents à Istanbul et un défilé qui a dégénéré à Paris. En France, la fête du travail s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu après 2 mois de contestation contre un projet de loi sur le travail et de nombreuses manifestations émaillées de violence. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, 84 000 selon les autorités, ont défilé dans tout le pays avec pour leitmotiv le retrait de ce projet de loi examiné à l'Assemblée nationale à partir de mardi.
Les milliers de manifestants qui ont occupé durant le week-end la zone verte de Bagdad se sont retirés de ce lieu ultra sécurisé de la capitale irakienne qui abrite le Parlement, le bureau du Premier ministre et les ambassades. Ils dénonçaient l'inaction du Parlement et réclamaient un nouveau gouvernement capable d'appliquer des réformes anti-corruption.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Dona Jean-Claude Oussou, le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines, s'est montré très optimiste en fin de semaine dernière sur la chaîne de l'ORTB. Les nombreux délestages au Bénin appartiendront bientôt au passé, a-t-il affirmé, promettant même que les Béninois fêteront les fêtes de fin d'année avec de la lumière. Invité de l'émission spéciale sur le thème « Le délestage au Bénin, peut-on en finir ?», il a expliqué que le manque de courant était dû notamment à la dépendance énergétique du Bénin vis-à-vis de l'étranger et à la baisse du niveau de l'eau dans les centrales hydrauliques. Le salut de l'Afrique viendra de la modernisation de l'Afrique. Ce sont les mots de Ramata Bakayokoli, ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à l'ouverture de la 7e édition des bâtisseurs de l'économie africaine, qui s'est ouverte vendredi à Abidjan. Créée en 2006, cette manifestation a pour but de distinguer et promouvoir les entrepreneurs et les chefs d'entreprise africains.
Merci Claire. Une musique qui ne trompe pas, vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour John.
Au football en Guinée, la FIFA met en place un comité de normalisation.
Cette décision intervient suite à des querelles internes qui affectent la Fédération guinéenne de football et qui ont eu pour conséquence l'interruption de toutes les compétitions de football dans le pays. Ce comité, qui sera installé par la FIFA et la CAF, aura une durée de 9 mois dans le but d'organiser les élections au sein de la fédération.
Élisée, à moins de 2 ans du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le Kenya, pays hôte, a encore du pain sur la planche.
Effectivement, John, et pour cause, 5 stades ont été recalés. Il faut dire qu'à l'issue d'une visite d'inspection, la CAF a annoncé que 5 des 6 stades retenus pour la compétition n'étaient pas encore opérationnels. Les Arambistas vont devoir donc redoubler d'efforts pour satisfaire au cahier de charge de la CAF avant le coup d'envoi de la compétition. Et pour finir avec vous, John, du basketball, la NBA et les résultats de la nuit des playoffs.
Conférence Est, premier tour à Miami. Miami 106, Charlotte 73. Miami remporte la série 4-3 et se qualifie pour le deuxième tour. À Toronto, Toronto 89, Indiana 84. Toronto remporte la série 4-3 et se qualifie pour le deuxième tour. Conférence Ouest, deuxième tour à Oakland. Golden State 118, Portland 106. Golden State mène la série 1-0.
Les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Lydon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour. Première escale ce matin, le Tchad. Au Tchad, où 5 des 6 candidats contestant la victoire du président Idriss Déby Itno à la présidentielle du 10 avril se sont réunis dimanche à Mountou, dans le sud du pays, pour exprimer leur soutien au maire de cette ville et candidat à la présidentielle, Laoken Kourayo Médard. Lors d'une conférence de presse qu'ils ont animée dans la capitale économique tchadienne, ils ont appelé à la vigilance et à la solidarité. Pour faire le point, Timothée de Nangmaï a joint sur place Bende Bezangde Silver, directeur de Radio FM Nada.
Après donc le résultat issu de ces élections, plaçant donc en troisième position selon donc la CENI, Laoken Kourayo Médard, ses sympathisants et militants sont donc menacés. Le 20 avril, le délégué du 5e arrondissement de la ville de Mundu, qui est donc l'administrateur délégué, a été enlevé par les agents de renseignement, l'ANF, et deux autres de ces militants ont été également donc arrêtés. Et donc le climat, la tension est donc vive, et c'est avec la peur au ventre que les militants et sympathisants de la CTPD vivent à Mundu. La CTPD, c'est la Convention tchadienne pour la paix et le développement, le parti donc du candidat Laoken Kourayo Médard. Alors, les quatre candidats qui sont arrivés de Djamena disent venir en soutien donc à leurs camarades qui traversent des moments difficiles puisque ces militants ont été arrêtés. Et arrivé tout droit de Djamena, Laoken Médard s'est rendu donc à l'hôpital régional de Mundu pour être au chevet donc de son militant Djamnadi Djamwer qui avait été arrêté, violenté et admis donc à l'hôpital. Son tort, c'est simplement donc avoir battu campagne pour Laoken Kourayo Mbaerem au niveau donc de la Dodié à Benama.
Au-delà du soutien de ces candidats à leurs camarades, le maire de Mundu, qu'est-ce qui s'est décidé au plan politique?
Sur le plan politique, ces candidats décident de maintenir leur position puisque pas plus tard que deux jours, ils ont donné leurs propres résultats. Et donc ces résultats placent en première position Saleh Kebzabo avec plus de 33%, Laoken Kourayo Médard, maire de Mundu, avec un pourcentage de 25%. Ils invitent leurs militants à rester vigilants pour attendre le Conseil constitutionnel qui va donner le résultat définitif. Ils entendent donc après cela se faire entendre par tous les moyens légaux et qu'ils ne se laisseront pas donc pas faire.
Vous avez parlé d'une vive tension à Mundu. Est-ce que des mesures spéciales ont été prises par les autorités dans ce sens?
Aucune mesure n'a été prise jusque-là, à part un communiqué radio envoyé par le gouverneur de la région, invitant donc les militaires à ne pas tirer d'armes. Des tirs même nourris ont été entendus et faisant même des morts et des blessés dans la ville de Mundu. Et donc, pour cette raison, simplement, le gouverneur a invité la population à rester calme parce qu'il n'y aura pas de tirs lors des résultats définitifs qui seraient proclamés par le Conseil constitutionnel. Néanmoins, on accuse déjà les partisans ou du moins les militants de Laoken Kourayo Médard, ou alors on accuse les gens d'organiser donc un génocide à Mundu parce que des armes blanches seraient donc en circulation et que ces armes-là seraient saisies. Et là, l'opposition en a fait donc mention lors de cette conférence de presse-là en disant que ce sont des manipulations, des choses savamment orchestrées pour nuire donc à l'opposition.
Bende Bezangde Silver, directeur de Radio FM Nada, joint à Mundu dans le sud du Tchad.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
La Cour constitutionnelle des Comores a ordonné samedi la réorganisation de la présidentielle dans 13 bureaux pour divers problèmes constatés lors du scrutin du 10 avril. Selon les résultats provisoires, le vainqueur de la présidentielle, le colonel et ancien président Azali Azoumani, dévance de quelque 2000 voix le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Souhaïli. Pour un éclairage, Timothée de Nangmaï a joint à Moroni Ali Madi, directeur de Caribou Mag.
Il ne s'agit pas de bureaux annulés pour irrégularité. Ce sont des bureaux qui n'avaient pas pu voter le 10 avril pour des raisons de sabotage, de vandalisme de certains membres de partis politiques. Ça concerne en tout 13 bureaux dans 5 localités dans l'île d'Anjouan.
Alors comment les différents camps accueillent-ils cette décision?
Les différents qui entend, même si chacun essaye de donner une interprétation, parce que l'opposition crie à un complot de la Cour constitutionnelle de vouloir évincer leur candidat. Le pouvoir, lui, il attendait que ces requêtes pour irrégularité et fraude dans certains bureaux puissent être reçues pour qu'il y ait une victoire automatique, c'est-à-dire directe, sans passer par une partielle. Mais au final, tout le monde dit se soumettre à la décision de la Cour. Ça fait partie de la tradition comorienne. Tout le monde peut crier avant que la décision soit rendue, mais dès que la décision est rendue, eh bien, tout le monde se soumet à cette décision. On attend maintenant un décret présidentiel qui va fixer la date et convoquer le collège électoral concerné. Et d'ailleurs, cela doit se passer avant le 15 mai, selon la Cour constitutionnelle, puisque les investitures pour les gouverneurs doivent commencer le 23 et pour le président le 26 mai.
Alors, compte tenu de la marge très infime qui sépare les deux candidats au second tour, de quel côté pourraient basculer les résultats?
En réalité, c'est que les localités concernées peuvent être considérées comme des fiefs du parti Joua de l'ancien président Sambi, qui soutient le candidat Azali, qui a battu le pouvoir selon les résultats provisoires. Mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Ce qui est ici, c'est que toujours Azali Assoumani reste le favori de cette élection, même si c'est une partielle qui concerne quelque peu de localités. Et puis, il a déjà une avance de 2194 voix selon les résultats de la CENI de la dernière fois. Donc, du coup, il reste le favori. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout peut arriver. Surtout que le troisième candidat qui était dans cette course s'est déjà prononcé favorablement pour soutenir Mohamed Ali Soli dans cette partielle.
Ali Madi, directeur de Caribou Mag, joint Moroni aux Comores.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
République démocratique du Congo, 16 partis politiques de l'opposition regroupés dans une nouvelle plateforme, l'Alternance pour la République, viennent de désigner Moïse Katumbi comme candidat pour la victoire à la présidentielle de décembre 2016. L'envol des délits Sezanga, l'ATD de José Makila, le MPCR de Jean-Claude Mvuimba, la SCOD de Jean-Claude Muyambo et le MLP de Franck Tiongo font partie de cette nouvelle plateforme dont la sortie officielle a eu lieu hier dimanche à Kinshasa. Suivons ce reportage de Walter Nkou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Selon les principaux acteurs de cette nouvelle plateforme politique, il est plus que temps, à 234 jours de la fin du mandat du chef de l'État, de travailler en synergie autour d'un ticket capable de remporter la prochaine élection présidentielle. Et l'Alternance pour la République a été mise en place en vue de permettre au peuple congolais de sortir ce candidat commun afin d'obtenir le changement. Délice Sessanga est président et porte-parole de l'AR.
Nous sommes aujourd'hui à 234 jours de la fin du mandat du président Joseph Kabila, et le peuple veut donc en tirer le bilan et veut le changement maintenant. C'est pourquoi nous sommes là, ici réunis dans l'Alternance pour la République, pour vous présenter une candidature commune qui va vous permettre autour d'elle d'avoir un programme commun de gouvernement afin qu'aux prochaines échéances, nous soyons en mesure de battre le pouvoir. La désignation de l'ex-gouverneur Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle est une étape décisive que nous venons de franchir pour garantir l'alternance démocratique. Il est le ticket gagnant de la République. La propulsion de sa personne à cette charge devra permettre au peuple congolais de pouvoir enfin se retrouver. C'est pourquoi l'Alternance pour la République appelle toutes les forces engagées en faveur du changement de pouvoir pouvoir rallier la candidature de Moïse Katumbi afin que nous puissions triompher à la prochaine élection présidentielle.
Tout en fustigeant l'incarcération prolongée de Jean-Claude Muyambo, président de la SCODE depuis plus d'une année, Cyril Doé, secrétaire général de ce parti, revient ici sur les raisons qui ont concouru au choix de Moïse Katumbi.
C'est une plateforme qui vient de naître, sa première sortie officielle aujourd'hui, le 1er mai, journée de travail, parce que Moïse Katumbi, c'est un grand travailleur. Les choses sur Moïse Katumbi, quand il était gouverneur, c'était un gouverneur exemplaire, qui était l'échantillon de tous les gouverneurs à faire de bonnes œuvres. C'est pourquoi nous avons voulu que ces œuvres-là ne puissent pas rester au niveau du Katanga.
Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
La dépolitisation des postes nominatifs et le respect des droits et libertés ont été au centre de la célébration du 1er mai au Mali. Les différentes centrales syndicales ont mené des activités diverses. L'Union nationale des travailleurs du Mali a respecté la tradition avec son défilé du 1er mai, alors que la Confédération syndicale des travailleurs du Mali a animé une conférence et débat, tout comme la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. On fait le point avec Kassim Traoré à Bamako.
Il fallait attendre le 1er mai pour assister au défilé de l'INTEM, la plus grande centrale du pays. Les enseignants qui viennent d'être empêchés de mettre un comité syndical dans les écoles privées étaient du défilé. Oumar Diarra, enseignant.
C'est l'ensemble de la liberté syndicale en République du Mali qui a été attaqué et que la Constitution malienne a été attaquée dans son article 20 qui dit que la liberté syndicale est garantie. C'est que les gens comprennent que nous avons droit à l'INPS, que nous avons droit à la retraite, que nous avons droit à l'assurance, que nous avons droit à vivre de notre travail qui est l'enseignement.
Le Mali est et indivisible, respect des droits et des libertés. C'est autour de ces thèmes que les militants de la CSTM se sont réunis. Amadou Amiongindo, secrétaire général de la CSTM.
Nous ne sommes pas du tout contents de la manière dont le gouvernement et le Conseil national du patronat ont géré les derniers accords signés en 2015. Nous avons tenu à le dénoncer. Il y a assez d'insuffisances à ce niveau-là et nous les avons replacés dans un nouveau cahier de doléances que nous entendons en ce moment défendre.
Constitué de 80% des travailleurs du secteur privé, la CTM a inauguré son siège en marge des festivités du 1er mai. Certains de ses militants sont opposés à la dévolution de la maison des artisans de Bamako au conseil du district de la capitale, Broulaye Kanté, bijoutier.
Si quelqu'un qui respecte ses lois, ses valeurs, la maison des artisans ne doit même pas être retirée de la commune 2. La maison des artisans doit être considérée comme un bien propre à la commune 2. Pourquoi ça sera géré par un autre pouvoir quelconque? On n'est pas du tout d'accord.
Le secrétaire général de l'Union des travailleurs du Mali, INTM, s'insurge contre la politisation des postes nominatifs au Mali. Yacouba Katilé.
L'administration et de la diplomatie, de la justice et même de l'armée afin que la compétence, les mérites soient des rigueurs dans les nominations. Autant, tout citoyen a le droit de participer aux affaires de la nation par le truchement du parti politique de son choix. Autant, tout travailleur et travailleur a le droit de respecter les dispositions statutaires et réglementaires lui interdisant de mener de front les activités syndicales et les activités politiques. Nul n'a le droit de mener des activités politiques couvertes par les masque du responsable syndical. Nous ne manquerons pas d'user de nos textes pour sévir.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnou assurait la mise en onde avec l'assistance technique de Cedric Franklin à la console. À la présentation, John Lyndon et Jean-Roger Billon. Félicitations à Marion Obama et à Denis Kwebo du Cameroun pour leur élection vendredi à Abuja à des postes de responsabilité à la Fédération africaine des journalistes. Ainsi va le monde aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage et écoutez VO Afrique.